Depuis des années, on nous répète qu'il ne faut pas manger trop gras, trop salé, trop sucré. On connaît la chanson par cœur. Diabète, maladies cardiovasculaires, obésité, coûts pour la santé publique. Et en parallèle, l'injonction à manger plus sain s'est installée doucement dans nos quotidiens. 5 fruits et légumes par jour, faire plus de place aux végétales dans l'assiette, regarder d'un autre œil ce que l'on met dans son caddie. Le végétarisme, le véganisme, les documentaires sur l'élevage intensif, les rapports sur le climat. On a bien compris que notre façon de manger dépasse largement notre frigo, qu'elle pèse sur les sols, sur l'eau, sur la biodiversité et bien sûr le climat. On sait, par exemple, qu'environ un quart de l'empreinte carbone des Français vient de leur alimentation et que la majorité de cette empreinte est liée aux produits d'origine animale. On sait aussi que théoriquement, on pourrait diviser par deux notre consommation de protéines animales tout en restant dans les clous des recommandations nutritionnelles. Théoriquement. Parce que dans la pratique, au moment où l'on ouvre le frigo le soir, les vieux réflexes reviennent. Je le vois très bien chez moi. Je mange moins de viande rouge, je la remplace plus souvent par du poulet, j'essaie d'ajouter des légumes, des légumineuses, et pourtant, dans un coin de ma tête, il y a toujours cette petite musique qui tourne. Un vrai plat, c'est une viande ou un poisson avec un accompagnement. Alors, comment on fait concrètement pour changer ce scénario? Comment on transforme les habitudes qui sont à la fois gustatives, pratiques, mais aussi culturelles, sociales, affectives? Comment on réduit sa consommation de produits animaux, son empreinte individuelle, tout en continuant à prendre du plaisir à manger et sans avoir l'impression de renoncer à quelque chose d'important? Et plus largement, si on le regarde à l'échelle d'un pays, d'un continent, comment on nourrit tout le monde en 2050 avec une alimentation plus soutenable? C'est donc une question de territoire et une affaire de transition. C'est pour cela que je vais explorer cette question avec la rencontre de Juliette Bretéché. Juliette est doctorante en design et en marketing et elle mène une recherche en Bretagne. Futur Terrain, émission mensuelle sur JetFM 91.2. Des récits pour nous inspirer, inventer et transformer nos territoires par le design. Juliette Bretéché, c'est d'abord une designer. Design graphique au départ, puis design global, avec très vite une spécialisation vers l'alimentation pour comprendre notre système alimentaire dans toute sa complexité. Elle a travaillé en agence, en indépendante, sur des projets graphiques ou sur des projets de design global. En parallèle, elle intervient en formation, transmet, questionne déjà avec les étudiants. Et puis, il y a 2 ans, elle s'est lancée dans une recherche par l'action. Un doctorat en design et marketing, avec une césure pour un congé maternité, parce que oui, la vie continue, et c'est aussi ça une recherche ancrée dans le réel. Sa question de recherche, elle est là, précise, ambitieuse. Mieux comprendre la place des cultures alimentaires à l'échelle régionale, dans les pratiques des mangeurs et leur potentiel rôle pour accompagner la transition végétale. Dynamique, curieuse, elle aborde ça sous l'angle du marketing, avec ses pratiques, ses comportements et du design, bien sûr, qui va permettre de passer de l'analyse à l'action. Avec elle, on va se demander ce que le design vient faire là-dedans. Parce que design et recherche, territoire et transition alimentaire, franchement, pour le grand public, quel est le lien? Comment un designer peut-il aider à changer nos assiettes, à végétaliser nos habitudes sans les brusquer? C'est ce qu'on va explorer ensemble, dès maintenant, avec Juliette.
Moi, j'ai toujours été passionnée par cette thématique de l'alimentation. Voilà, pour tout un tas de raisons, mais le fait aussi que ça rassemble des représentations très très fortes dans l'esprit des mangeurs et le fait que ce soit présent dans le quotidien voilà, plusieurs fois par jour pour tout le monde dans toutes les parties du monde de manière différente aussi, donc voilà, ça m'a toujours passionnée et aujourd'hui il y a des grands enjeux quand même qui tournent autour de la question de l'alimentation. C'est comment on se nourrira demain en 2050 et une des grosses questions, c'est quand même l'impact environnemental et sanitaire de la consommation de viande. Donc un consensus scientifique qui s'accorde sur la nécessité de la réduction de la consommation de viande, alors que voilà, dans les faits, on voit qu'elle stagne. Par exemple, depuis 10 ans en France, cette consommation stagne et ne réduit pas. Et puis c'est aussi un sujet voilà, qui crispe un petit peu l'opinion publique. Donc j'ai eu envie voilà, de m'attaquer un petit peu à ce sujet-là qui touche vraiment le quotidien quoi, et les pratiques concrètes des mangeurs. Mon objet de recherche, c'est surtout comment, comment on peut passer à la pratique, en fait. On part des intentions de se dire qu'il faut réduire la consommation de viande. Donc, globalement, c'est diviser par deux en moyenne notre consommation de viande quotidienne. Comment on fait rentrer ça dans les habitudes et comment on fait en sorte que ce soit possible, en fait, pour les mangeurs de l'intégrer à leur pratique. C'est à la fois par la réduction de la viande, mais aussi par l'acceptation des protéines alternatives qui peuvent être végétales, qui peuvent être... Moi, je vais surtout travailler sur le végétal, mais ça peut aussi être des protéines comme des insectes, de la viande cultivée ou des mycoprotéines qui sont issues de fermentation. L'idée, c'est de travailler quand même majoritairement sur les représentations, parce qu'on se rend compte que la clé se situe quand même à cet endroit-là, et puis aussi sur les savoir-faire, parce que c'est des choses qui reviennent souvent chez les participants. C'est une impression de ne pas savoir faire et de ne pas connaître les produits alternatifs ou les produits végétaux en règle générale.
Avant de l'entendre parler de Bretagne, de recettes et de mangeurs, il y a un point important à comprendre. Juliette ne fait pas une thèse derrière un bureau à aligner des modèles théoriques et des statistiques. Son travail avance par aller-retour entre ce qu'elle observe, les hypothèses qu'elle formule et des dispositifs qu'elle conçoit comme designer pour venir les tester auprès des mangeurs. En fait, le design n'est pas seulement un sujet de sa thèse, mais c'est aussi une manière d'enquêter, de fabriquer la recherche et de la confronter au terrain. Et c'est exactement ce qu'elle raconte ici.
Le design donc permet cette ouverture-là, peut-être un regard un peu différent parfois, un peu instinctif aussi. Moi, j'ai ressenti le besoin assez tôt d'aller sur le terrain aussi et d'aller interagir avec des mangeurs, donc par des méthodologies comme de l'observation participante, par exemple, avec la réalisation d'une recette en fait à quatre mains avec des mangeurs et des mangeuses qui, eux, choisissaient une recette et puis on la cuisinait ensemble. Et par la force des choses, la plupart du temps, j'étais quand même invitée à rester déguster cette recette avec les participants, donc en prolongeant la discussion. Et puis voilà aussi une observation des placards, des frigos, donc avec un rapport aussi à l'objet et à l'image. Et au-delà de ça, aussi... J'ai demandé à mes participants de remplir un carnet de bord de leur repas pendant 21 jours, donc par le moyen, en fait, par une médiation d'un objet, en fait, la création d'un carnet de bord que j'ai vraiment travaillé à la manière d'un designer, donc en pensant à mes mangeurs, en essayant d'anticiper en fait la situation où ils allaient devoir le remplir en dégustant un plat et en parlant à la fois de leur ressenti en termes d'appréciation gustative du plat, mais aussi de leur ressenti émotionnel. Est-ce que ça leur rappelle des émotions passées? Est-ce que ça leur rappelle des souvenirs? Est-ce que au contraire, ils sont relativement neutres face à la réception de ce repas-là? Voilà. Donc ça m'a apporté aussi ensuite des éléments précieux à analyser. Et puis enfin, dans la seconde partie de la thèse, ce que le design permet d'apporter, c'est aussi un passage à l'action, on va dire, de se dire que de cette première phase de recherche sortent quelques premières hypothèses. Et le design va permettre en fait de prototyper et de transformer ces premières hypothèses en expérience, en projet. Un dispositif que je vais pouvoir ensuite retourner tester sur le terrain et confronter en fait à mes mangeurs et discuter ensuite avec eux et observer leurs réactions en fait grâce à ces dispositifs là. Donc c'est un petit peu comme de la recherche action, donc il y a cette partie là mais j'ai vraiment la volonté de montrer que le design se infuse et se diffuse dans la recherche, mais à toutes les étapes.
Ce qui est frappant dans ce que décrit Juliette, c'est cette idée que le design sert à transformer des hypothèses en situations concrètes. Un questionnaire qui se remplit en dégustant un plat, une recette cuisinée à quatre mains, un carnet de bord à tenir pendant 21 jours. Tout ça, ce sont des objets, des dispositifs qui obligent les mangeurs à mettre des mots sur ce qu'ils ressentent, sur leurs souvenirs, sur leurs habitudes. Et qui en même temps donnent à la chercheuse une matière très fine pour analyser leurs pratiques. Mais on entend bien aussi la contrainte de l'autre côté. Pour pouvoir interpréter tout ça, Juliette a dû aller chercher dans beaucoup de disciplines différentes, de la sociologie à la géographie, en passant par le marketing.
L'idée ici, c'était de contribuer en fait à élargir aussi un petit peu l'exploration et les connaissances, et de se dire que le facteur culturel, il est très souvent cité comme un frein à l'acceptation d'une nourriture qu'on ne connaît pas, d'un aliment voilà qu'on connaît peu, ou qui fait appel à des représentations qui culturellement voilà sont assez opposées à ce qu'on a l'habitude de voir et de manger. Et moi, je voulais plutôt l'explorer comme un levier. De me dire que voilà, de prime abord, j'ai eu ces constats, ces petites observations, de me dire mais j'ai quand même l'impression que en France en tout cas, on a une palette assez large et une grande variété de cultures alimentaires régionales, au sein desquelles il existe des pratiques qui sont végétales, mais que voilà, que peut-être on a un petit peu oublié, mis de côté, ou qu'en tout cas on ne considère pas comme faisant partie du champ de l'alimentation végétale. Donc l'idée, c'était plutôt de se dire que ça pouvait devenir un levier.
Là où d'habitude le facteur culturel est vu comme un frein à l'acceptation de nouvelles façons de manger, elle choisit de le considérer comme un levier. En France, les cultures alimentaires régionales sont très riches et certaines pratiques végétales existent déjà, mais on ne les identifie pas comme telles. La Bretagne s'impose alors comme un laboratoire idéal. Pourquoi ? Culture alimentaire forte, largement reconnue, mais aussi première région productrice, avec une position géographique singulière et des particularités bien ancrées. À partir de là, Juliette recrute une vingtaine de participants aux profils variés, tous liés à la région d'une manière ou d'une autre, pour explorer concrètement ce que manger veut dire aujourd'hui en Bretagne. Mène ses observations en Bretagne. Donc finalement, il est situé dans une région aussi aux pratiques alimentaires singulières, avec une forte culture. Est-ce que maintenant tu peux finalement m'expliquer l'ancrage sur le terrain et pourquoi tu as choisi la Bretagne ?
Et alors, pourquoi la Bretagne ? Donc initialement, moi j'avais l'envie de comparer deux régions très différentes. Voilà, pourquoi pas le nord, le sud. On m'a assez vite ramené à la réalité aussi, de me dire qu'en 3 ans de doctorat, ce serait un petit peu compliqué. Donc je le garde quand même sous le coude pour plus tard. Et donc j'ai cherché déjà dans un premier temps à me dire bon, je vais trouver une région avec une culture alimentaire assez forte et identifiée. En Bretagne, les Bretons savent de quoi ils parlent, mais identifiée aussi au-delà de ses frontières. Donc il y a des représentations assez communes sur la culture alimentaire bretonne. Et puis c'est aussi une région qui est une des premières productrices de produits animaux, alors que ce soit l'élevage bovin, les veaux aussi. Il y a beaucoup d'élevage porcin aussi, du lait également. C'est en termes d'agroalimentaire, c'est quand même une région qui est la première productrice de France, donc ça c'était important. Et puis c'est aussi une région qui est assez singulière parce qu'elle est à l'extrême ouest de la France, trois de ses frontières sont maritimes, donc elle est aussi un petit peu isolée, on va dire, de ses voisins, et donc peut-être qu'elle a gardé aussi des particularités assez fortes pour une de ces raisons-là. Donc mon choix s'est fait s'est porté sur la Bretagne, et puis ensuite j'ai cherché entre 20 et 25 participants avec le souci de me dire que j'allais chercher une variété de profils différents, donc des mangeurs qui sont liés à la région, mais avec un lien qui peut prendre différentes formes. Un lien qui peut être un lieu de vie. Qui peut être un lieu de vie ponctuelle ou de vacances, mais qui a laissé aussi, qui a créé quand même un lien. Ça peut être des origines familiales. Le lien peut prendre différentes formes. J'ai aussi cherché une variété d'âge, Et j'ai cherché une variété de répartition sur le territoire breton. Donc les différents départements de la région Bretagne administrative et la Loire-Atlantique. Alors là, ça fera sûrement débat, mais c'est apparu en fait assez évident avec les premiers échanges avec mes participants, dont plusieurs vivent en Loire-Atlantique et se sentent appartenir pleinement à l'ère culturelle, en tout cas à l'influence culturelle bretonne. On illustre un petit peu, j'ai des participants qui vont de 22 à 84 ans, qui sont étudiants, qui ont des liens familiaux bretons, mais qui vivent pour leurs études loin de la Bretagne, ou au contraire, des participants qui... alors je pense à une de mes participantes qui vit sur l'île de Sein, a aussi pu me raconter des pratiques de son enfance sur l'île de Sein quand l'île était quand même encore assez isolée du continent. J'ai essayé aussi d'avoir une variété d'histoires différentes avec des participants qui se sentaient plus aussi en lien avec les terres bretonnes et donc l'élevage. Et ça se voyait tout de suite dans les relevés de consommation alimentaire aussi, avec une forte présence de la viande de porc dans les habitudes alimentaires, et puis des participants beaucoup plus ouverts sur le littoral. Et là, je pense à une participante d'une trentaine d'années qui est originaire, donc elle plutôt de l'est de la France, mais qui vit en Bretagne et qui est devenue marin. Donc c'est aussi des liens qui se créent au fur et à mesure de la vie, mais qui influencent aussi l'alimentation, parce qu'elle déclarait avoir intégré dans ses habitudes alimentaires la consommation d'algues, par exemple.
Quelles étaient les pratiques alimentaires qui ont été observées ? Des exemples de plats, de recettes ?
Certains traits qui ressortaient très fortement, et notamment la consommation de crêpes et galettes qui est systématique chez tous mes participants, même ceux déclarant un lien à la Bretagne. Il y a autre chose qui est ressorti très fortement, c'est aussi ce lien aux produits bruts et à la transformation culinaire simple. C'est des produits qu'on reconnaît, qu'on épluche, qu'on met dans un plat et qu'on transforme assez peu. Donc la simplicité, c'est quelque chose qui est ressorti aussi. La pomme de terre à l'eau, le poisson cuit simplement au four, la galette juste avec du beurre. Le beurre, évidemment, est ressorti aussi assez rapidement. Ça, c'était des choses qui revenaient. Et puis, il y a aussi le fait de partager les repas, du fait que ce soit que les plats cités comme plats traditionnels, on puisse en manger pour 4, pour 6, pour 8. On peut toujours avoir du monde qui débarque à l'improviste. Il y aura de la quantité. Un kick à farce, effectivement, on le fait facilement pour 15 personnes. Un phare breton, il y en a pour 2, il y en a pour 4, il y en a pour 8. Des crêpes, c'est pareil. Donc ça, c'est quelque chose qui est ressorti assez rapidement.
voit bien, avec ce que raconte Juliette, que manger en Bretagne, ce n'est pas seulement une affaire d'ingrédients, mais aussi de formes de repas, des plats simples à base de produits bruts et presque toujours pensés pour être partagés.
On observe des différences, notamment le kikafars qui est quand même vraiment finistérien et qui sort assez peu de ses frontières. Donc le kikafars qui est une sorte de pot-au-feu, donc on fait cuire de différents morceaux de viande et différents légumes dans un bouillon, dans de l'eau, et on vient aussi donc mélanger une pâte. Alors la recette diffère hein, selon les participants, mais globalement du lait, de la farine de sarrasin, des œufs qu'on vient enfermer dans un sac de toile, et on vient cuire en fait le contenu de ce sac dans le bouillon lui-même. Et ensuite, en fonction, alors là vraiment des sous-régions et des sous-pays bretons, on vient soit le trancher, ce pain de sarrasin, alors qui peut aussi être du froment, mais soit le bruginer, donc qui est un terme aussi que j'ai découvert à cette occasion-là, mais qui ça revient en fait à venir l'émietter. Et donc après, on mange les légumes, le fard et la viande. Avec un peu du bouillon aussi. Donc ça, c'est voilà, un plat qui est ressorti assez souvent dans les témoignages, mais qui est très très peu cuisiné par les participants, parce que ça nécessite du temps, parce que ce sont toujours des grosses quantités aussi, parce que c'est des morceaux de viande qu'on peut pas forcément diviser. Donc voilà, ça c'est des plats qui ressortent souvent, mais qui font en fait assez peu partie du quotidien des participants. Dans les choses qui reviennent au quotidien, par contre, on a beaucoup de liens aussi avec le troc et avec les échanges de marchandises ou avec le don, et particulièrement sur le poisson, les œufs et les légumes. On voit que ce sont des choses qui circulent beaucoup. Le don de poisson, ça c'est quelque chose qui est revenu très très fréquemment, comme une marque d'affection aussi, de recevoir, voilà, de retrouver sur la table de son jardin un poisson pêché par son voisin. Voilà, ça c'est des pratiques qui sont pour le coup vraiment actuelles et encore ancrées.
Comment ces échanges de produits bruts, ces plats symboliques mais rares, peuvent-ils devenir des points d'appui pour imaginer des dispositifs qui encouragent, de manière douce, une alimentation plus végétale au sein même de ces réseaux de proximité ?
Dans les déclarations des participants, et ça c'est cohérent avec la littérature hein, la revue de littérature existante en tout cas, c'est que l'attitude est plutôt favorable, c'est qu'on ne va pas rencontrer une opposition ferme. Voilà, tout le monde me dit bah oui, moi pas de problème, j'y arriverai, c'est pas du tout insurmontable, etc. Par contre, quand on commence à se projeter un petit peu dans l'action, là tout de suite arrivent des freins, mais sur la connaissance par exemple, je connais pas les produits, je connais pas de recettes, je sais pas faire. Donc ça c'est un petit peu ces éléments bloquants que j'ai retrouvés, alors que dans les pratiques et dans les récits, quand on ne parle plus d'alimentation végétale, mais quand on parle d'alimentation régionale, là, spontanément, on retrouve des recettes qui sont citées par les participants, qui sont des recettes végétariennes. La galette au beurre, c'est la meilleure. Bon, bah, très bien. Des choses comme le rodic, par exemple, qui est une sorte de préparation de pommes de terre rôties, voilà, avec un petit peu de farine pour la faire gratiner, ou des châtaignes dans un bol de lait. Donc ça, c'est des plats qui sont plutôt cités comme des souvenirs, donc plutôt comme appartenant à des souvenirs d'enfance, des souvenirs familiaux, qui font un petit peu moins partie du quotidien des mangeurs aujourd'hui, mais qui sont associés systématiquement à des représentations très positives, en fait. Voilà, là, moi, je me suis commencé à me dire, mais il y a sûrement du lien à faire entre un savoir-faire, des pratiques qui ont existé et qui sont encore vifs dans les représentations et dans les mémoires, mais qui sont un petit peu moins présents dans le quotidien et dans l'action.
Futur Terrain, émission mensuelle sur Jet FM 91.2. Des récits pour nous inspirer, inventer et transformer nos territoires par le design. Quand on écoute Juliette, on voit bien qu'elle ne s'intéresse pas seulement aux plats eux-mêmes, mais à tout ce qui se joue autour, les gestes, les habitudes, les échanges et les symboles. Et pour comprendre ça, elle ne parle pas simplement de comportement au sens psychologique, elle s'appuie sur un cadre un peu particulier qui vient plutôt du côté du marketing et des sciences sociales, la théorie des pratiques. Je lui ai demandé de nous expliquer concrètement comment ce cadre fonctionne et comment il lui permet de relier très concrètement alimentation régionale et alimentation plus végétale.
Alors la première notion qu'on peut aborder, c'est la théorie des pratiques. Donc ça, c'est un cadre théorique qui est assez utilisé en comportement du consommateur, assez mobilisé aujourd'hui. Et la dimension centrale que moi j'utilise, c'est que pour qu'une pratique soit active, il faut que ces trois composantes soient présentes. Donc les trois composantes, ce sont les ressources. Donc ça, on peut entendre les ressources matérielles, mais aussi le temps dédié, l'énergie mobilisée. Les compétences en seconde composante. Donc les compétences, ça va être tout ce qui est savoir-faire, connaissances. Et puis une troisième composante qui sont les significations. Donc il faut que, effectivement, ça fonctionne aussi d'un point de vue représentation, que la signification soit appropriée ou en tout cas positive, ou rentre dans le cadre de ce que le mangeur peut accepter de manger. Donc ces trois composantes-là, moi je les ai retrouvées dans l'alimentation, dans tout ce qui était alimentation régionale. Donc quand mes participants me parlaient et me décrivaient leur alimentation, quand on parlait d'alimentation régionale, les trois composantes entre guillemets s'allumaient, étaient présentes. Sur les ressources, on peut parler de tout ce qui va être les produits régionaux, les produits locaux dont on a déjà parlé, hein, mais voilà, le beurre, le sarrasin, alors qui est d'ailleurs considéré comme local, mais qui vient très très souvent en fait du Canada ou d'ailleurs, mais qui est en tout cas considéré comme étant constitutif de la culture alimentaire bretonne. Et on a aussi des instruments particuliers. Donc on a parlé du sac à farce, des ustensiles, on a parlé du bilic aussi, qui est utilisé pour cuire les crêpes et les galettes, mais qui pourrait tout à fait être envisagé pour cuire d'autres aliments. Donc ça, c'est plutôt pour la partie ressources, il y a le côté temps passé aussi. Et puis sur la partie compétences, on a toute une notion de gestuelle, des tours de main particuliers, ou la connaissance de certaines recettes. Donc on a parlé du rodic tout à l'heure, mais ça peut être aussi du phare, donc tout ce qui va être un peu des pâtes qu'on va retrouver sous plein de formes différentes en fait, sous forme de crêpes, de galettes, sous forme de on a dit, on peut le retrouver en tranches, on peut le retrouver bruginé, on peut le retrouver sous forme de petits morceaux de pâte à crêpes qui sont jetés dans un lait bouillant, voilà, pour pouvoir aussi se solidifier, un petit peu comme des spätzle à l'allemande par exemple. Donc ça, voilà, c'est des tours de main qui sont spécifiques. Et puis sur les significations, j'en ai parlé tout à l'heure, mais tout ce qui va être partage, tout ce qui va être le fait que ce soit des cuisines qui maintiennent en fait le produit relativement peu transformé. Voilà, tout ça, c'est des choses qui vont compter, qui vont venir s'allumer à chaque fois qu'on parle de cuisine régionale. Alors qu'à l'inverse, quand je discute de cuisine et d'alimentation végétale avec mes participants, je vois que ces trois catégories-là ne s'allument pas, ou alors font appel à des représentations négatives. Le tofu, c'est dégueulasse. Pour l'illustrer de façon très directe, ça c'est revenu très très souvent. Je vais quand même pas manger de la salade. Ou voilà, montrer qu'en tout cas l'alimentation végétale tout de suite renvoie à un imaginaire négatif, qui va être peu nourrissant, ou qui va faire partie en fait d'un groupe extérieur, quoi, qui va faire partie d'un univers en tout cas qui n'est pas celui des mangeurs que j'ai interrogés. Et puis voilà, toute une partie aussi sur le manque de connaissances ou de compétences, le sentiment en tout cas qu'ils n'auraient pas les capacités à cuisiner autrement que du, voilà, en sortant du schéma une viande, un poisson et un accompagnement, quoi.
Pour bien comprendre les cultures alimentaires régionales et leur potentiel pour la transition végétale, il faut d'abord faire un état de l'art. Dans une thèse, c'est le moment où l'on regarde tout ce qui a déjà été écrit sur un sujet, où l'on déroule la bibliothèque. Pas seulement les textes de design ou de marketing, mais aussi ceux d'anthropologie, de sociologie, d'économie, de géographie. Bref, toutes les disciplines qui s'intéressent à l'alimentation. Parce qu'ici, il ne s'agit pas seulement d'ajouter un peu plus de légumes dans l'assiette. L'alimentation végétale, pour beaucoup de mangeurs, c'est une expérience nouvelle, qu'il faut apprendre, apprivoiser, s'approprier. Et c'est là que Juliette mobilise la théorie des pratiques. Une manière de regarder, pas à pas, ce qui se joue dans un repas, depuis l'envie de cuisiner un plat, les courses, la préparation, la mise à table, jusqu'au moment où l'on goûte, où l'on commente, où l'on se souvient. Autrement dit, elle ne reste pas au niveau des grands principes. Elle suit la chronologie très concrète de l'expérience alimentaire, et elle se demande à chaque étape ce qui doit changer ou rester familier pour qu'un mangeur puisse vraiment s'approprier une façon de manger plus végétale.
Alors le connecteur, justement, ça va être ce lien qui va se faire entre l'alimentation régionale et l'alimentation végétale, donc qui peut être une des trois dimensions de la pratique dont on parlait tout à l'heure, donc une ressource, par exemple. Et ça, c'est ce que vraiment je vais venir tester avec mes dispositifs de design. Donc on va essayer de regarder si une dimension, si un connecteur peut permettre en fait, de faire accepter une alimentation végétale en passant par des grands marqueurs qui sont déjà présents dans l'alimentation régionale qui est connue et appréciée du mangeur. Donc le lien à l'alimentation régionale, là, il est vraiment déclaré par le mangeur. C'est vraiment lui qui déclare une proximité en fait avec telle ou telle culture alimentaire et qui est donc qui a une attitude en fait favorable avec cette culture-là parce que ça va lui à la fois ça fait appel à des compétences qu'il maîtrise déjà, à des produits qu'il connaît, il sait où s'approvisionner avec ces produits-là, et à la fois, ça lui rappelle aussi souvent des souvenirs positifs, agréables, avec voilà, une certaine nostalgie aussi, mais qui peut aussi se transformer en une projection sur le futur et sur est-ce que cette nostalgie peut pas être aussi en fait, l'alimentation de demain, quoi.
Dans la deuxième phase de sa recherche, Juliette me parle des effets qu'elle espère provoquer. Et c'est là sans doute tout l'intérêt d'un travail mené par le design. Cette capacité à produire des effets concrets à partir d'une diversité de solutions. En l'état de ta recherche, donc tu as commencé il y a maintenant un an et demi, deux ans, cette étape de dispositif, à quel moment tu peux commencer à la rendre un peu opérante dans ton projet de recherche ?
Je suis à la fin de l'analyse de ma première phase de terrain. Donc je superpose en fait très concrètement les grilles de ce que j'ai analysé en alimentation végétale et les grilles de ce que j'ai analysé en alimentation régionale. Et je vois bien que quand je superpose, il y a parfois des vides du côté de l'alimentation végétale qui pourraient être comblés par des éléments présents dans les pratiques quotidiennes d'alimentation régionale. Donc c'est maintenant que dans les mois qui viennent que tout va se jouer et l'idée ça va être de pouvoir tester ces éléments-là d'ici 4 à 5 mois, quoi. Si les hypothèses se vérifient et si les grands marqueurs qu'on a retrouvés là, dans l'alimentation régionale bretonne, en tout cas, qui sont le partage, la simplicité, et puis certains marqueurs en termes de goût, de texture, de produits, d'ingrédients utilisés, sont présents, ça peut être aussi un signal en fait envoyé à l'industrie agroalimentaire pour montrer que la solution n'est pas forcément dans toujours plus de complexité et de transformation des produits, mais que cela peut aussi être une revalorisation de certains ingrédients ou simplement un besoin aussi de réapprendre à cuisiner d'une certaine manière ou en tout cas de pour les industriels, de montrer aussi que c'est une pluralité de propositions qu'il va falloir mettre en œuvre et réfléchir, et pas seulement un produit miracle ou un autre, mais qu'en tout cas, en fonction des territoires et puis de l'histoire aussi de chacun, On ne va pas réceptionner de la même manière un produit alimentaire ou un autre. Voilà, c'est aussi cette envie, c'est de montrer aussi cette nécessité d'avoir une diversité de solutions proposées et pas seulement une innovation qui serait vue comme un petit peu miraculeuse, quoi.
C'est une invitation à penser plusieurs voies possibles, ajustées à chaque territoire, à ses pratiques, à son histoire. Et ce travail a le potentiel de parler à beaucoup d'acteurs. Des producteurs, des collectivités, des restaurateurs. Tous ceux et celles qui, à leur échelle, peuvent réinventer la manière dont on mange ensemble.
Là, on va reprendre le système alimentaire dans sa globalité, mais on peut partir du démarrage et regarder les producteurs aussi. Donc en Bretagne aussi, on a aussi une grosse production maraîchère avec toute une diversité végétale qui est déjà présente avec des choux, des pommes de terre, des artichauts. Donc ça, c'est... parfois aussi, ça peut permettre de revaloriser certaines productions et certains aliments qui peuvent être qui peuvent souffrir parfois d'une image un peu ennuyeuse ou peu goûteuse. On peut penser ensuite à certains circuits courts et circuits de distribution aussi. On a vu avec l'exemple du poisson, des œufs et des légumes qui s'échangent et qui se mettent à disposition entre voisins, mais on peut imaginer aussi d'autres circuits de production ultra courts ou en tout cas une aide envers ces circuits-là qui existent déjà et un appui. On peut ensuite imaginer différentes choses, mais on se rend compte en tout cas que ce qui est avancé en premier comme frein, qui est la compétence ou le manque de disponibilité d'un produit, ne correspond pas forcément à la réalité et que c'est parfois une question de mise en lien, une mise en lumière qui peut faire changer les choses, quoi. Ça peut ouvrir la place ensuite, à la suite de ce travail doctoral, au développement en fait de certains projets et certains dispositifs, en s'adaptant à chaque fois à la pluralité des territoires. Parce que là, j'ai pris l'exemple de la région Bretagne, mais on voit que déjà dans cette région est déjà très large et se sous-divise entre guillemets entre beaucoup de pratiques différentes aussi. Donc ça permet à la fois de créer du lien et ça permet aussi de se rendre compte qu'il y a une nécessité de s'adapter et de pouvoir répondre et parler en tout cas à différents mangeurs en fonction de leur culture et de leurs habitudes.
Futur Terrain, émission mensuelle sur JetFM 91.2. Des récits pour nous inspirer, inventer et transformer nos territoires par le design. La thèse de Juliette, vous l'avez compris, est en mouvement. Une grande phase d'observation déjà bien avancée, et devant elle, l'étape où il faudra inventer et tester des dispositifs concrets, des objets, des situations pour accompagner la transition alimentaire. Mais avant, j'avais envie de m'arrêter un instant sur ce que cela signifie, très concrètement, de faire une thèse comme la sienne. À mi-parcours, qu'est-ce qu'on en retient ? Qu'est-ce qu'on apprend sur son sujet ? C'est par là que j'ai voulu reprendre la conversation avec Juliette.
Je pense que je ne savais pas forcément ce que j'allais trouver exactement en me lançant dans cette aventure du doctorat en tant que designer et en tant que designer ayant aussi eu des premières expériences d'enseignement, de travail en agence, de travail en indépendante. J'avais très très envie de revenir en tout cas au tout début de la réflexion et au début des sujets et de pas seulement intervenir en fin de projet, donc ça je le retrouve tout à fait, mais par contre je pense que j'ai été très agréablement surprise par la qualité du lien qui se crée avec les participants et leur attention aussi à la suite du projet. Et c'est effectivement cette dimension de se dire que c'est une des façons aussi de parler d'un sujet et de faire aussi de la vulgarisation scientifique, c'est directement avec les participants qui vont venir graviter autour de la thèse et nourrir cette thèse. C'est une relation particulière qui se met en place aussi.
La question du travail doctoral et de la forme de la restitution, est-ce que tu as commencé à l'envisager ? Et justement, quelle est la place, quelle part du design et quelle pourrait être sa spécificité et sa plus-value par rapport à un travail académique ?
Alors c'est vrai que pour un designer, la restitution académique d'une thèse de doctorat est toujours un peu vertigineuse, hein, parce qu'on voit le manuscrit rédigé sur un logiciel de traitement de texte qui souvent nous crispe un petit peu en tant que designer. Mais effectivement, il y a cette idée de se dire il y a des objectifs et des standards académiques auxquels il faut répondre, et c'est aussi là toute la valeur d'un travail doctoral et tout l'intérêt d'une formation académique pour un designer. Mais au-delà de ça, toute l'ambition, c'est aussi de se dire comment on peut retranscrire un peu plus finement, alors soit au sein du manuscrit une forme particulière, une mise en page particulière, des liens vers de l'audio, des images, montrer toute la richesse en fait des données qui ont été récoltées sur le terrain, des liens qu'on a pu faire dans ce travail-là, et pourquoi pas aussi avoir différents temps de restitution avec des formes différentes, le manuscrit de thèse, mais pourquoi pas demain aussi une exposition temporaire dans un lieu qui permettrait de faire écouter de l'audio avec les témoignages en fait des participants, avec leur voix, avec le son de la cuisine, avec les échalotes qui crépitent dans le beurre, et puis des photos, les carnets de bord aussi, parce que ce sont des carnets qui sont pour la plupart manuscrits, avec des petites annotations, des petits clins d'œil à droite à gauche qui permettent vraiment là je trouve de donner à voir la richesse aussi des interactions entre le chercheur et les participants. Et d'ailleurs, j'ai déjà eu des retours assez amusants de certains participants qui m'ont expliqué que participer à cette recherche et noter comme ça tous les jours leur repas leur a permis d'avoir des discussions à table sur le contenu de leurs assiettes et sur l'histoire aussi de telle ou telle recette, et que ça avait d'une certaine manière déjà changé leur regard sur leur façon de s'alimenter. Donc il y a aussi la question des contributions de la recherche à l'issue de celle-ci, mais des contributions directes de la recherche en train de se faire sur les participants eux-mêmes et ces échanges ensuite qui se créent et qui viennent aussi nourrir la réflexion du chercheur. Donc c'est vraiment une histoire de miroir en fait entre les participants, le chercheur qui se met en place tout au long de la thèse.
Et dans ce travail au long cours, comment ça se passe, la relation avec les laboratoires, avec les équipes de recherche, quand on arrive avec un bagage de designer ?
Alors l'encadrement, il est très précieux. Et ça faisait partie des éléments pour lesquels on m'avait fortement conseillé de passer du temps aussi à trouver un encadrement qui corresponde vraiment à mon intention de recherche. Et c'est aussi une histoire de rencontre. Là, moi, j'estime que j'ai beaucoup de chance d'avoir un encadrement qui comprend ma recherche, qui comprend là où je veux aller et qui est à l'écoute et qui est ouvert. C'est-à-dire que les designers de mon encadrement sont ouverts au formalisme académique, on va dire, de la recherche aussi. Et à l'inverse, les chercheurs plus universitaires, en tout cas, vont être très ouverts aussi à la place du design dans la recherche et vont même l'encourager. Donc ça, c'est très, très appréciable et ça permet vraiment de maintenir un cap. Et l'encadrement permet vraiment de prendre un petit peu de hauteur par rapport à notre recherche dans laquelle on est plongé au quotidien et qui parfois on se noie un petit peu sous les données, sous les lectures. Ça permet vraiment de maintenir un petit peu un cap, et le laboratoire de même permet par les échanges avec les autres chercheurs du laboratoire sur d'autres thématiques, de pouvoir faire des ponts aussi parfois sur les méthodologies, sur les cadres théoriques qui peuvent être appliqués à des thématiques tout autres que l'alimentation, mais tout aussi intéressantes et stimulantes. Et les échanges entre doctorants sont très précieux aussi, alors à la fois au sein du laboratoire Rythme qui m'accueille, mais aussi au sein de l'école de design Nantes Atlantique, où quelques doctorantes sont en cours de travail aussi. Ça permet, avec des thématiques très différentes, des méthodologies très différentes, en tout cas de pouvoir comparer les façons de faire de la recherche et apprécier aussi la pluralité de la recherche. Et ça, c'est quelque chose que que je suis en train de découvrir avec beaucoup d'appétit aussi, de voir tous les... La diversité des sujets traités, la diversité des approches et la richesse aussi d'associer différents chercheurs avec des regards différents au service en fait d'un objet et d'un sujet de recherche. Alors on est de plus en plus nombreux. Il y a une association qui s'appelle Design en Recherche qui permet de regrouper aussi et de créer des échanges entre doctorants et jeunes chercheurs en design. Mais effectivement, il y a ce vrai besoin de créer du lien parce que le design aujourd'hui n'est pas une discipline académique à part entière reconnue par l'université. Donc les designers sont entre guillemets un petit peu répartis dans différentes disciplines académiques et ont besoin aussi d'échanger sur leurs pratiques et de voir ce qui peut faire commun aussi. Qu'est-ce qui fait qu'une recherche est une recherche en design malgré le fait que ce soit très souvent des sujets très très différents et des méthodologies parfois différentes, mais on se rend compte que les méthodologies de design émergent toujours à différents endroits de la recherche et se retrouvent aussi d'une certaine manière.
Et si, face à la difficulté d'accepter les transitions alimentaires, la clé était justement là, dans une approche qui ne cherche pas à imposer de nouveaux récits, mais à partir du quotidien, du réel des mangeurs. Au lieu de multiplier les injonctions, manger plus de légumes, moins de viande, qui pèsent comme une charge mentale de plus dans un monde déjà bien anxiogène, pourquoi ne pas révéler les pratiques qui existent déjà, les faire parler, les faire évoluer, en travaillant sur les représentations, sur les imaginaires, rendre la transition plus simple, plus familière, préférable. Et c'est là, je crois, qu'une recherche en design comme celle de Juliette trouve sa place. Elle ne se contente pas d'observer ou de théoriser, elle agit, elle transforme, elle part des usages réels des habitants d'un territoire pour proposer des solutions concrètes. Un grand merci à Juliette Bretéché pour sa disponibilité, pour nous avoir ouvert les portes de son chantier de recherche. Futur Terrain, émission mensuelle sur Jet FM 91.2. Des récits pour nous inspirer, inventer et transformer nos territoires par le design.